parlerai maintenant. Il y a juste un point que je n'avais pas développé sur cette introduction au cheminement avec l'intellectuel de Newman, qui était justement le lien entre les grandes œuvres et le cheminement intellectuel et spirituel. Et je prendrai finalement qu'un seul exemple qui est parlant, c'est celui-ci, c'est que il a rédigé son essai sur le développement du dogme. C'est la traduction française, c'est ça, c'est essai sur le développement. Il a rédigé ça justement au moment où il était pratiquement. Il a commencé comme anglican et il a terminé comme catholique. Et ça, c'est parce que au cours de cette longue étude des origines chrétiennes en comparaison avec la dogmatisation ou le déploiement de la dogmatique catholique, surtout dans les siècles postérieurs à la réforme protestante, avec le développement de mariologie et le développement de la prise de conscience, enfin, du rôle du pape dans l'Église, eh bien, il a justement réussi à ce moment-là, il a trouvé la paix dans le sens de vraiment comprendre qu'il y avait homogénéité dans le développement, si vous voulez. Au fond, le but de Newman, c'était pas tellement de souligner les changements ou les évolutions ou les nouvelles croissances. C'était plutôt de se satisfaire qu'il y avait homogénéité entre le dépôt de la foi apostolique, la prédication des apôtres, la tradition apostolique, et puis l'état du catholicisme dans sa formulation de sa foi au moment où de son époque, si vous voulez. Donc, au fond, c'est le développement du dogme, oui, mais pour montrer son homogénéité avec le dépôt de la foi. Et lorsqu'il était convaincu que cette homogénéité existait, les raisons qu'il retenait dans l'anglicanisme et qui produisaient ce déchaînement de la conscience qui, justement, caractérise un des passages que je vous ai fait lire, où sa conscience ne cédait pas devant les déviations romaines ou les excroissances romaines qu'il toujours attribuait à l'Église catholique. Et tant qu'il n'avait pas réglé ce problème-là, son intelligence à la foi ne pouvait s'accorder avec sa conscience de fidélité à l'Église anglicane, si vous voulez ça. Donc, deux voies de fidélité à l'Église anglicane. Mais une fois que ce fossé était comblé sur le plan de la vraie nature du catholicisme, à ce moment-là, rien ne l'arrêtait. Et alors, il avait sa soumission, par conséquent, au père Dominique Barbé, d'ailleurs, qui est maintenant bienheureux et fêté en Angleterre. C'est un passionniste, et passionniste au moment où le catholicisme revenait en Angleterre, les catholiques commençaient à revenir en Angleterre en grand nombre à cause non seulement des convertis, et même beaucoup plus que les convertis, l'afflux d'ouvriers irlandais fuyant la famine en Irlande et le manque de travail venaient justement travailler dans les usines d'une révolution industrielle qui atteignait son point culminant au milieu du 19e siècle là en Angleterre. Et alors, ce père, dans son enfance, a reçu une locution de la Vierge Marie lui disant qu'un jour, il ferait un apostolat dans un pays qui était au-delà du soleil et qui était dans les brumes du Nord, quoi. Et alors, il ne voyait pas comment ça se réalisait parce que une fois devenu passionniste, il a été nommé tantôt dans un poste de responsabilité, tantôt dans un autre, dans sa congrégation. Et puis tout à coup, il a été envoyé en Angleterre. Et alors, comme il était un saint, il a tiré les foules vers lui d'une façon absolument extraordinaire. Et alors, c'est ce père-là que l'humain trouvait, non pas accordé à lui, pas du tout, mais c'est vers lui qu'il voulait aller pour faire son abjuration et sa soumission au siège de Rome. Et alors, ce Dominique Barbey, donc en 1845, a visité les Comores, qui étaient pratiquement une sorte de communauté monastique que Newman avait installée à 5 km de la ville d'Oxford, avec des disciples dont la plupart se sont passés au catholicisme quelques années avant lui. Et alors, il a, dans le secret comme il pensait, il a fait sa soumission comme ça au pape de Rome, dans cette humilité-là. Et alors, voilà. Et alors, voilà un petit peu pour ce point-là. Je voudrais maintenant en venir à quelque chose d'autre, qui est d'abord de vous regarder avec vous. C'est le cheminement spirituel et intellectuel et humain que je voudrais étudier maintenant. Et je voudrais d'abord que nous regardions tout simplement cet ensemble de dates que je vous ai donné avec la bibliographie. Vous avez trois feuilles, je pense, qui sont agrafées. Et alors, si on part pour ça rapidement, on reviendra là-dessus en mettant de la chair, disons, et des raisonnements sur, et une pensée sur ça. Mais ça nous donnera une petite idée de l'envergure du sujet, finalement, parce que la vie de Newman était très complexe, au moins jusqu'à sa conversion au catholicisme, à cause de l'activité de premier plan qu'il avait dans l'anglicanisme. D'ailleurs, sa vie se divise en deux parties, comme on voit. La feuille que j'ai écrite moi-même, comme ça, à la main, est en français, et malheureusement, ce que je vous ai donné, le Catholic Period, la période catholique, eh bien, c'est en anglais, mais j'ai souligné pour vous les ouvrages qui datent de cette période, parce que c'est finalement ça qui est important. Parce que dans la période catholique, les événements de la vie de Newman se sont simplifiés et en même temps sont devenus crucifiants, parce que il s'est prouvé que au début de son parcours dans le catholicisme, j'en parle plutôt maintenant parce que je ne vais pas parler de ça dans son cheminement. Son cheminement intellectuel spirituel, je le fais dans l'anglicanisme jusqu'à sa conversion. Donc je parle un petit peu maintenant de cette période catholique. Dans ces périodes catholiques, l'épiscopat, qui n'a été rétabli d'ailleurs officiellement en Angleterre, il y avait des vicariats apostoliques en Angleterre jusqu'à l'année 1850, et puis ensuite il y a eu élection de la hiérarchie catholique en Angleterre, ce qui a poussé à une levée de bouclier de la part des anglicans, mais enfin ça n'a pas trop bousculé les choses. Ce qui a beaucoup plus affecté l'opinion publique en Angleterre, c'est la définition de la vraie unité pontificale en 1870. Bon. Mais en tout cas, donc, Newman a été reçu dans l'Église catholique au moment où il n'y avait que des vicariats apostoliques. Et alors, le représentant officiel de l'ensemble était un cardinal Wiseman. Cardinal Wiseman, qui était aidant pour lui à un certain niveau et un peu décevant à un autre lorsqu'il avait passé quelques années dans le catholicisme. C'est-à-dire qu'il doit à ce cardinal-là lui avoir dit que, étant donné que son passé avait été tel, il ne pouvait pas s'intégrer à partir de cette expérience de monachisme très ascétique, d'ailleurs, qu'il avait inventé à l'Éclemore. Il ne pouvait pas passer de ça à une congrégation catholique stricte comme les cisterciens ou même les bénédictins, parce que physiquement et humainement, il n'était pas fait pour ça. Et en particulier, il ne pouvait pas faire un vœu de pauvreté qui l'aurait dépouillé de tous ses instruments de travail, de toute sa bibliothèque. Et d'ailleurs, il dit avec beaucoup de simplicité, le vœu de pauvreté, je ne peux pas le faire parce que j'aime bien regarder tous mes volumes de mine qui sont là en ligne devant moi et que j'ai lu. Hein. Bon, ben, voilà, c'est ça. Et pathologie mine, latin et grec, il ne pouvait pas s'en séparer pour un vœu de pauvreté, voyez. Alors, on lui a demandé justement, à ce moment-là, le Carl Weizmann a eu la bonne initiative de lui conseiller de fonder l'oratoire de Philippe Néry en Angleterre, là où, vous savez, il y a une certaine vie communautaire, une certaine vie religieuse, mais dans une très grande liberté. Et d'ailleurs, nous avons un étudiant en théologie à Ars qui vient de la branche newmanienne, parce qu'il paraît qu'il y a eu en France la fondation d'un oratoire qui était totalement indépendant de l'oratoire anglaise de Birmingham. Et en fait, maintenant, à Nancy, il y a une branche de l'oratoire qui tient justement à être dans une ligne plus newmanienne, si vous voulez. Il y a deux représentants maintenant de l'oratoire tel que Philippe Néry l'a conçu ici en France, d'après ce que je comprends. En tout cas, Weizmann était très avisé en lui conseillant ça. Donc, si je regarde, est-ce que l'anglais va vous embêter ou est-ce que vous pouvez, la plupart de vous comprennent un petit peu d'anglais, non? Oui, bon. Donc là, vous avez donc Newman is received at the Roman Catholic Church by Italian Passionist priest Dominic Barbary. Bon, alors il quitte Littlemore pour la vieille fondation d'un grand séminaire qui a émigré ailleurs et qu'il a renommé Maryvale. D'ailleurs, Maryvale maintenant, c'est un endroit où Notre-Dame-des-Vies a un contact permanent parce que c'est devenu un centre de formation théologique et catéchétique de grande valeur. Et c'est Pierre de Pointé, je pense, il y a une espèce de triangle, Schönborn, Maryvale, Notre-Dame-de-Vie, non, il n'y a pas ça, Père Jean-Louis.
Steubenville aussi.
Oui, Steubenville aussi, oui, c'est ça. Et alors, ils sont dans une sorte d'association de promouvoir une saine catéchèse dans l'Église catholique. Et alors, cet institut de Maryville, par conséquent, est regardé par Rome un peu comme Steubenville et Notre-Dame-de-Vie ici sont regardés par Rome comme étant des lieux où on peut promouvoir une catéchèse qui soit justement dans la ligne du concile, finalement, c'est ça. Et alors, donc, c'est Newman qui a donné à ce vieux bâtiment le nom de Maryville, justement, la vallée de Marine, si vous voulez, c'était beau comme initiative. Ensuite, donc, on voit qu'il s'en va à Rome pour faire un petit peu de théologie qui le mette un petit peu dans le bain d'une théologie catholique formelle, si vous voulez, donc qu'il n'avait pas fréquenté, évidemment, en étant anglican et qui n'était pas même selon son esprit pour beaucoup de choses, mais il a subi les manuels comme tout le monde. Bon, voilà. Ensuite, il a fondé l'oratoire et là, il a publié un roman qui s'appelle Lost and Gain, qui a été traduit en français et qui exprime un peu le sens pour lui d'une conversion, si vous voulez, ce qu'on perd, ce qu'on gagne. Enfin, moi, je n'ai pas lu ce roman, donc je ne comprends pas trop beaucoup. Ensuite, il y a eu la fondation de deux oratoires, ou deux communautés de l'oratoire de Philippe Néry, une à Birmingham, qui est maintenant vraiment le centre spirituel, finalement, de l'oratoire en Angleterre, et puis une autre à Londres, qui est partie dans une direction beaucoup plus, si vous voulez, de la dévotion, des dévotions catholiques extérieures, sous la direction de Faber, qui était quelqu'un de très sensible à toutes les formes de spiritualité mariale et christique aussi, avec le Sacré-Cœur, était très sensible à toutes ces choses-là, et s'est même converti au catholicisme par l'attrait de ça. Et Newman a été obligé de laisser à Faber la direction de ce deuxième oratoire qui est à Londres, mais qui a pris une direction, disons, il ne faut pas être péjoratif, il y a du positif, mais plus dévotionnel que théologique, si vous voulez. Et ça ne convenait pas. Ça ne convenait pas tellement à l'esprit de Newman. Il y a encore ce clivage aujourd'hui, si vous voulez. L'oratoire qui est à Londres, là, est un petit peu dans le sens de votre institut Saint-Pierre, vous voyez. On est très braqué sur la messe de 30, enfin, des choses comme ça, vous voyez. C'est un peu dans cette ligne-là. Mais Newman, c'est pas ça du tout, vous voyez. Ensuite, vous avez donc différentes choses qui sont... Ah, oui, alors, il y a eu deux échecs que Newman a connus comme catholique qui ont été finalement quelque chose qui l'ont plongé dans une sorte d'état d'amertume qui a duré une vingtaine d'années. Et alors, c'était d'abord que Wiseman, d'une manière mal avisée cette fois-ci, lui a demandé de commenter dans une conférence publique l'état d'un prêtre qui était renégat par rapport à Rome, qui avait quitté Rome dans une situation qui était scandaleuse, non pas au point de vue humain, mais au point de vue de la désobéissance. Et Wiseman, de façon mal avisée, lui a demandé d'avertir les catholiques dans une conférence des agissements de ce ex-prêtre, si vous voulez, ou de ce prêtre renégat. Et alors ça lui a valu une accusation de diffamation. Il a dû passer devant un tribunal. Et lorsque ce prêtre Achille dont il parlait, il n'avait pas de documents pour prouver ce qu'il avait dit, et il comptait sur les papiers qu'avait Wiseman, et Wiseman avait perdu les papiers. Alors du coup, Newman était condamné sans appel parce qu'il n'avait pas de défense. Et ce n'est qu'après qu'on a trouvé les papiers à la dernière minute, et enfin, Newman était condamné à verser une amende de 100 livres qui faut multiplier par 100 aujourd'hui, si c'était 10 000, 100 000 livres d'amende pour avoir agi d'une façon diffamatoire. Bon, voilà un premier échec qui était ridicule, si vous voulez. Et un deuxième échec, c'était qu'on lui a demandé de fonder une université catholique à Dublin. Et alors, Newman aurait voulu être davantage soucieux de faire que les étudiants catholiques puissent entrer à l'université d'Oxford, parce que le catholicisme était exclu complètement des milieux universitaires britanniques, qui étaient tous sous l'égide de l'église anglicane. Et Rome, ou le cardinal Wiseman en particulier aussi, n'a pas voulu qu'il ait de l'influence encore de nouveau à Oxford. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais peut-être parce qu'il ne voulait pas que Newman soit une sorte de personnalité de compromis entre l'anglicanisme et le catholicisme pour ses étudiants ou des choses comme ça. En tout cas, l'entrée d'étudiants catholiques comme moi ou d'autres n'a été permis par les universités, parce que les universités, quand on soit autonomes en Angleterre, ne sont pas sous l'égide d'une université unique étatique. Et les universités anglaises n'ont pas permis, Oxford et Cambridge n'ont pas permis l'entrée de catholiques avant les années 1875, voilà. En tout cas, Newman a essayé de cette fondation à Dublin, mais la mentalité, disons, intégrisante de ces catholiques, surtout de l'archevêque de Dublin, était telle que Newman a été réduit finalement par les intrigues qui étaient menées contre lui, etc., à donner sa démission. Alors le fruit de cet échec encore d'essayer de fonder une université à Dublin était quand même une série de conférences qu'il a données sur l'idée d'une université, la place de la théologie dans une formation ou dans un lieu universitaire où toutes les sciences doivent être dans une sorte de dialogue interdisciplinaire. Eh bien, ces conférences-là sont de première qualité au niveau de la valeur pédagogique éducative. Et d'ailleurs, on a tenté plusieurs traductions de cette œuvre-là à cause de sa valeur. Donc, ces huit conférences, quand même, sont à témoignage permanent à cette initiative qui en soi est un échec, si vous voulez. Vous l'avez là, j'ai mis un rond, le premier des ronds, pour le souligner à cause de son importance, Discourses on the Nature and Scope of Universal Education. En fait, en français, on traduit simplement l'idée d'université. C'est assez, pas un titre bref comme ça, l'idée d'université. Pas l'idée d'une université, mais l'idée d'université, parce que c'est l'idée de l'interdisciplinarité. Je vais expliquer ça. Et non pas l'idée, l'idée d'une université, parce qu'il s'agit non pas d'une institution, mais de l'interdisciplinarité des sciences. Avec la théologie au cœur, si vous voulez. Voilà, moi je dirais ça, ça comme ça. Newman, la laïcité, c'était assez incompréhensible pour un esprit newmanien, et le laïcisme encore plus, si vous voulez. Parce que pour lui, si une âme ne s'élève pas vers Dieu, elle ne peut pas s'épanouir vraiment sur le plan scientifique. Ça, c'était la conviction de Newman. Une âme doit s'élever vers Dieu pour s'épanouir sur le plan intellectuel. Et toute la vie de Newman est une démonstration de ça. Il a mis de côté le rationalisme et le raisonnement pour lui-même, si vous voulez. Il a mis de côté l'idée que l'intelligence puisse être indépendante. Il a dit que la faculté humaine la plus importante, c'est la conscience morale ou religieuse qui nous élève vers Dieu. Et c'est la fidélité à ça qui a permis à la connaissance scientifique, par le raisonnement, etc., de s'épanouir. Même les sciences exactes. Ça, c'est la position de Newman. Hein. Mais je ne commente pas ça par rapport à votre université française. Ensuite, vous avez d'autres ouvrages que j'ai soulignés, mais sans les pointer autant. J'ai pointé une œuvre là qui appartient, qui est de très, très important, parce que c'est une nouvelle occasion pour Newman d'entrer dans un conflit malheureux avec les autorités catholiques. Mais en fait, la valeur de cet écrit n'est pas tant le bourreau qui sera soulevé, c'est sa valeur intrinsèque. C'est la consultation des fidèles en matière de foi. Je pense que ça a été traduit comme ça en français, la consultation des fidèles en matière de foi. Et alors, la raison pour laquelle cet ouvrage a soulevé tant de protestations qui sont montées à Rome et ensuite Newman a été de nouveau mal interprété à Rome, c'est qu'on a interprété le mot consultation dans un sens juridique, comme si les évêques devaient soumettre leur charisme de discernement à la vérification par les fidèles. Ce qui n'est pas du tout le sens que Newman donnait au mot consultation. Il donnait au mot consultation, en fait, le sens que l'Église donnait elle-même lorsque les évêques du monde entier ont été consultés par Pie IX avant qu'ils ne définissent l'Immaculée Conception. Et la raison pour laquelle Pie IX a consulté les évêques du monde entier, c'est pour leur demander quelle était la dévotion, quel était l'état de la dévotion mariale des fidèles de la diocèse. Hein. Si vous allez à Ars, vous verrez que Jean-Marie Vianney a consacré sa paroisse au cœur immaculé de Marie en 1836, donc 18 ans avant la définition de l'Immaculée Conception. Et ça montre, si vous voulez, que du côté de la dévotion des fidèles, du côté de leur piété, du côté de leur sens profond de la grandeur de Marie, il y avait comme une pression dans le sens de dire oui, cela fait partie du donner de foi. Et c'est dans ce sens-là que Newman a entendu le mot consultation. Il fallait voir quels étaient l'énorme poids de la dévotion catholique envers Marie avant de passer à cette définition. Et d'ailleurs, dans l'apologie, lorsque lorsqu'il est attaqué par les protestants à propos d'une Immaculée Conception, parce que les protestants ont essayé d'utiliser l'apologétique suivante, on se couche tel soir sans être obligé de croire à l'Immaculée Conception, et on se lève le lendemain avec l'obligation parce que la définition a été portée. Autrement dit, on est obligé d'avoir une conscience hypocrite. On n'y pensait pas avant, maintenant on est obligé. Bon. Mais ça c'est... Et Newman a dit, ça c'est une caricature, parce qu'il a renversé la vapeur, il a dit, les catholiques ne croient pas à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie parce qu'elle a été définie, elle a été définie parce que les catholiques y croient. Voilà, c'est ça. Et c'était ça la vérité. Voilà. Mais ça a soulevé de la poussière énorme, si vous voulez, cette affaire-là, voyez. Ensuite, alors, vous avez 1865, vous avez un autre ouvrage qui est très important, parce que finalement, c'est ce que nous allons suivre pour connaître aussi, finalement le cheminement intellectuel et spirituel de Newman. Et alors, comme Newman était quand même un être très intérieur, il est discret sur ses dispositions spirituelles, et c'est quand même le mérite de cet ouvrage de Monseigneur Honoré, la communauté étudiante avant à l'époque, d'avoir été à Birmingham sous la direction du père Bouillet pour fouiller dans les documents plus personnels, les lettres qui n'avaient pas été publiées, etc., pour déceler davantage ce cheminement spirituel de Newman qui était en filigrane derrière toute sa démarche intellectuelle. En fait, dans sa démarche intellectuelle, on voit son âme, parce qu'il y a une telle insistance sur la fidélité à la conscience et la recherche de la vérité qu'on voit bien la personne de Newman dans son portrait spirituel derrière ça, si vous voulez. Mais je mets sur le tableau quand même l'ouvrage de Honoré, c'est l'itinéraire spirituel de Newman. Dans la bibliothèque, non? Ça vaut la peine, en tout cas, c'est un très beau livre. C'est un très beau livre. Seuil, 1963. Il est étudiant à la cathédrale de Paris, je pense, à l'époque. Vous devez la voir, je pense, non?
Oui, je crois.
Oui. En tout cas, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, cela me fait aller sur un autre terrain, qui est celui-ci, c'est que Newman dit justement que l'apologie finalement, à part finalement ses ouvrages, parce que la consultation des fidèles en matière de foi était un long article, finalement, c'est pas un gros livre, l'a fait sortir de... son silence, et parce qu'en fond il a rongé son frein pendant 20 ans Et ce n'est que lorsque, au fond, Léon XIII a fait amende honorable en 1879 en le créant cardinal, qu'il s'est senti vraiment réhabilité devant Rome, en tout cas, avec les autorités romaines et devant le peuple catholique de l'Angleterre. Mais l'apologie a été accueillie par les catholiques, aussi bien que par les protestants, comme une grande œuvre à cause de sa parfaite honnêteté. Et le protestant qui l'avait attaqué et qui a provoqué chez Newman la décision de raconter son cheminement pour relever toutes les ambiguïtés qu'on lui attribuait et lui montrer comment était vraiment son évolution, eh bien, cet ouvrage-là, justement, était comme sa sortie de silence, et les catholiques, à ce moment-là, de l'Angleterre, savaient découvrir par là la grandeur de cette personne, peut-être, en tout cas. Mais il y a eu des années où Newman a vraiment écrit des choses qui étaient extrêmement amères, si vous voulez. Je vous dirais que la raison pour laquelle je dis c'est pas Thérèse Lisieux, parce que Thérèse Lisieux a toujours positivé. Elle a été traitée par des sœurs qui, dans ce camel de Lisieux, qui étaient des garces quand même, exclusivement. Et alors, elle a positivé tout. Même si on lui avait claqué dans la figure, on aurait dit, bon, c'est très bien. Je souris. Mais Newman n'était pas comme ça. Sa hypersensibilité a eu le dessus, si vous voulez. Et alors, il y a dans cette affaire, ce journal que quelqu'un m'a tapé à la machine, le journal catholique va de 1859 à 1880, voyez, ça va du moment où il a été de nouveau attaqué à Rome pour son consultation des catholiques, consultation des catholiques en matière de foi, jusqu'au moment où il a été fait cardinal, où il y avait une réhabilitation par Rome, si vous voulez. Au fond, le fait d'être sous une matière à suspicion, quelqu'un qui avait cherché la vérité avec une telle ardeur, d'être toujours suspect à Rome, qui était le lieu qu'il avait rejoint par une fidélité à l'amour absolu de la vérité, c'est impensable, si vous voulez, que ça ne pouvait pas le faire souffrir. Et c'est son journal qu'il a écrit pendant ces 20 années témoigne de ça, si vous voulez. Je lis ceci. C'est le 8 janvier 1860. Parce que je ne suis pas poussé en avant, parce qu'il ne s'est jamais vu à l'esprit de dire « Voyez donc ce que je fais et ce que j'ai réalisé », parce que je n'ai pas colporté de commérage, flatté les puissants, ni adhéré à tel ou tel parti, je ne suis rien. Je n'ai pas un ami à Rome et je n'ai pas travaillé en Angleterre et je n'ai travaillé en Angleterre que pour être mal compris, calomnié et méprisé. J'ai travaillé en Irlande en heurtant sans cesse à des portes fermées. J'ai subi, semble-t-il, bien des échecs et ce que j'ai réussi n'a pas été compris. Je crois dire cela sans amertume. N'avoir pas été compris, c'est bien cela. J'ai vu qu'il y avait chez les catholiques de grandes lacunes à combler, surtout dans la méthode d'éducation. Et naturellement, ceux qui souffraient de ces lacunes n'en avaient pas conscience. Vous savez, il était pur, hein? Il y avait une ironie. Hein? Plus on est ignorant, et plus moins on a la conscience. Moi, j'ai dit quelquefois, lorsque j'enseigne à des séminaires, j'ai dit quelquefois aux autres pères, un séminariste qui ne sait rien, c'est rien. On peut tout faire avec un séminariste qui ne sait rien. Mais un séminariste qui ne sait pas qu'il ne sait rien, alors c'est la catastrophe. Ah ben c'est ça. Et naturellement, ceux qui souffraient de la méthode de ces lacunes n'en avaient pas conscience. Ah, et la hauteur de l'intelligence humaine par rapport à ces ignorants, vous voyez. Pas plus que des remèdes possibles. Et celui qui tentait quelque chose pour les aider ne trouvaient chez eux ni gratitude, ni considération. Ils le considéraient, ces élus même, bien plutôt comme un agité, un extravagant, enfin un homme répréhensible par quelque côté. Voyez? Et ça continue comme ça. Ça continue, il y a des pages, il y a 20 pages de choses comme ça, voyez. Je dis, Thérèse Lisieux n'aurait pas fait comme ça. Ben, elle n'a pas été appelée à ses difficultés non plus. Non. Elle était dans son combat. Mais Dieu sait ce qu'elle a encaissé quand même dans la part. Vous voyez, c'est, enfin, je laisse ça. Ensuite, vous avez Dream Atlantis. C'est ça, c'est une poésie qui, je ne sais pas, elle a été rendue en français, je pense. Je ne sais pas quoi. Qui est comment un homme passe de ce monde au-delà de la mort. Et l'imagination, l'imaginaire de Newman est mise à son maximum de capacité, là. Et c'est une très belle œuvre. Bon. Ensuite, vous avez une lettre à Puzet à l'occasion de son récent évangélisation. C'est-à-dire que lorsque Newman s'est converti au catholicisme, il a dû abandonner finalement ses meilleurs amis dans l'anglicanisme, épuisé à cause de sa solidité, son érudition, sa fidélité, sa constance dans la publication des tracts, etc., et dans tout ce qui concernait le mouvement d'Oxford, était finalement un ami solide sur lequel Newman pouvait compter. Et voilà que Puzet écrit un ouvrage qui s'appelle Iron Icon, qui l'adresse à Newman, comme si c'était une sorte de branche d'olivier tendue, si vous voulez, et en fait, ce n'est qu'une poursuite de toutes les malversations de dévotion à Marie dans l'Église catholique, si vous voulez. Alors, Newman est blessé par ça, et alors du coup, il répond dans une lettre qui en fait est un petit traité de mariologie qui est absolument extraordinaire. Alors je passe alors finalement on a voyez Rome est plus ouvert que les catholiques anglais là. On lui donne la permission à Rome de fonder un oratoire à Oxford, mais le pouvoir local, les évêques locaux disent non, c'est trop dangereux, on ne peut pas faire ça, etc. Alors on arrive à l'ouvrage qui finalement est la synthèse de toute la vie de Newman, intellectuel, un essai, la grammaire de l'assentiment. Pourquoi est-ce que ça, c'est un petit peu la synthèse de toute son œuvre intellectuelle? C'est parce que Newman, au moment où il commence à cheminer vers une conception plus catholique de l'Église à partir de l'évangélicalisme, a commencé à s'interroger sur les motifs de crédibilité. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut passer d'un non-foi à la foi? Et alors, il n'était pas satisfait par toutes les propositions qui ont été faites par des hommes, par des théologiens anglicains et autres. Et alors, il a examiné, si vous voulez, ce problème d'un assentiment proprement intellectuel au motif de crédibilité qui est demandé dans le catholicisme comme un motif de crédibilité, c'est un motif qui se situe sur le plan de l'intelligence et non pas simplement sur le plan d'un enthousiasme affectif, si vous voulez. Hein. Et alors, l'enthousiasme affectif d'un certain charismatisme, Newman en avait horreur, si vous voulez. Le mouvement charismatique pour Newman, c'est pas ça. Et alors, adhérer parce qu'on est enthousiaste, Newman, non. Il faut que ce soit dans l'intelligence. Et l'Église demande que le motif de crédibilité qui porte à faire le saut de la foi soit un acte intellectuel. Alors, c'est ça qu'il a examiné dans le détail au niveau des processus de notre psychisme. Comment est-ce qu'une psychologie humaine parvient-elle à une certitude au niveau d'un motif de crédibilité qui ensuite le prépare au saut de la foi, qui est finalement le don de la grâce surnaturelle que notre personne ne peut exiger si Dieu ne la donne. Voilà. Et par conséquent, c'est vraiment un peu la synthèse de sa vie. Ensuite, vous avez des différents qui ont été publiés pour essayer de poser des questions anglicanes, polémique, etc. Bon, voilà. Mais alors, la lettre au duc de Norfolk, où j'ai mis un rond, là, qui a été publiée aussi en français, et qui a été éditée par Bernard Dupuis, qui était un théologien qui avait une envergure ici en France, qui éditait ici, là, d'ailleurs, une revue écuménique. Et Bernard Dupuis, comme d'ailleurs toutes les œuvres de cette édition de Brunello, dont je vais vous signaler, Bernard Dupuis émaille cette traduction de la lettre au duc de Norfolk avec énormément de notes qui renseignent sur le problème, sur l'état politique ou sur l'esprit des hommes politiques en Angleterre par rapport à cette menace qui était Rome pour eux, si vous voulez. Ils pensaient que définir la faillite pontificale, c'était l'effort du pape de prendre le pouvoir même sur le plan du fort civil, si vous voulez, dans les pays de l'Europe, alors qu'il n'en était rien. Et alors, Newman adresse un mot, plutôt une longue lettre au duc de Norfolk, parce que Norfolk était le seul duché de l'Angleterre qui était resté catholique en ligne continue à partir de la Réforme. Les ducs de Norfolk payaient les amendes à l'État et avaient le droit de rester dans le catholicisme, si bien que le duc de Norfolk était finalement la personnalité catholique la plus en vue dans un catholicisme qui avait encore de vieilles familles restées fidèles au catholicisme avaient encore une place. Maintenant, le duc de Norfolk, c'est insignifiant. C'est pas insignifiant, mais enfin, à ce moment-là, il était considéré comme un petit peu le leader du catholicisme sur le plan de la relation avec les pouvoirs politiques. Par conséquent, c'est adressé à lui, mais en fait, c'est Gladstone qui est le premier ministre de l'Angleterre et qui s'émeut à propos de cette définition de la viabilité pontificale qui, justement, est visée plus ou moins. Alors là, vous avez ensuite la mort de son ami, la Cadenet. Ensuite, vous avez Newman élevé au cardinalat en 1879. Et Big Liberty Speech, ça c'est le discours qu'il a composé pour l'occasion de son élévation, si vous voulez, la célébration de son élévation. Et ce qui est important dans ce discours, c'est qu'il prévoit, et là ça montre la grandeur de son intelligence, il prévoit la sécularisation de l'Europe. Il la prévoit. Et il dit aux Romains, aux autorités romaines, vous allez voir ça. Vous allez voir les pays de l'Europe essayer d'arracher le christianisme de leurs seins les uns après les autres. Et vous allez voir que le choix sera entre ceux qui ne croient pas en Dieu et le catholicisme. Il avait cette idée, au fond, que être dans une voie de cheminement comme il a été, l'a conduit à la conviction que l'anglicanisme ne pouvait qu'être une sorte de contrefort contre un certain montée de l'athéisme et de l'incroyance, mais que c'était une digue qui allait céder plus ou moins tôt. Et par conséquent, le seul pilier qui pouvait tenir contre l'athéisme montant, c'était le catholicisme. Il était convaincu de ça. Bon, vous avez sur sa devise là, des ombres et des images jusqu'à la vérité qui traduit toute sa démarche intellectuelle. Voilà. Donc, j'ai détaillé ça un petit peu comme ça, parce que je ne vais pas en parler dans ce que je vous dirai sur le cheminement intellectuel. Maintenant, si on prend la feuille que vous avez en français, que j'ai écrit à la main, c'est beaucoup plus vite là, simplement pour souligner certaines petites choses. On est sur sa longe, bon. Le fait que ceci, justement, montre que la première partie de sa vie, exactement la moitié de sa vie est vécue dans l'anglicanisme, la moitié dans le catholicisme. Bon, naissance, pensionnaire, première conversion, à l'âge de 16 ans, ça je vais revenir là-dessus dans le portrait de son cheminement. Étudiant à Trinity College Oxford, fellow, ça veut dire agrégé, qui a des privilèges de membre d'un collège qui lui donne une une possibilité d'action aussi dans le monde étudiant comme tuteur, etc. Bon, ordination pépite anglican. Alors, la mort de sa sœur Marie, là, je vais revenir là-dessus puisque ça a influé beaucoup sur son évolution spirituelle. Et Honoré donne une importance à ça. Nommé curé de la paroisse universitaire de Sainte-Marie à Oxford, la paroisse universitaire. Et là, il a commencé cette série de sermons paroissiaux qui occupe maintenant la traduction française et ses 1200 pages. Hein. Et il a prêché ses sermons de 1826 jusqu'à 1843 où il a donné sa démission. Et certains comme Owen Chadwick, un historien, le meilleur historien de l'anglicanisme que nous avons en anglais, estiment que les sermons paroissiaux sont le chef-d'œuvre de Newman. C'est possible, mais pour nous catholiques, effectivement, ce serait mieux, ce serait bon que ces sermons soient une source d'inspiration pour les homélies, etc. Parce que même si on ne peut pas prêcher comme lui, il a prêché, la manière dont il se sert de la Bible et de la tradition catholique et patristique dans des sujets de spiritualité, de doctrine, c'est indépassable, si vous voulez. Une de mes tristesses, c'était que dans les séminaires en anglais, on ne faisait jamais allusion à ces sermons, alors qu'ils auraient pu nourrir quand même la prédication ou même les cours de prédication des séminaristes qui étaient se préparer au sacerdoce. Mais bon, c'était comme ça. Ensuite, vous avez là Sermon des Assises de Keble. Je mets ça parce que ça marque le début du mouvement d'Oxford. Je vais vous déposer ça pourquoi dans ma présentation. Ensuite, alors, les Tracts for the Times, qui étaient les principaux écrits qui essayaient d'insérer dans le milieu clérical anglican le goût d'un renouveau spirituel, liturgique, théologique, etc., et par des écrits de première valeur qui portaient plutôt dans la direction du catholicisme. Ensuite, vous avez les Annales du IVe siècle, qui est un ouvrage qui a été traduit par un universitaire français pour la raison que il faut quand même voir que Newman, au fond, dans cet ouvrage-là, montre de façon très claire le pourquoi de l'étude de la patristique. C'est-à-dire que moi, lorsque j'étais... Je vous donne beaucoup de choses qui sont diverses, mais je pense que c'est tout est utile, finalement. Hein? Oui, ça va? Bon. Donc, je vous dirai ceci. C'est que on peut... et j'ai eu ça, moi, lorsque j'étais au séminaire, on peut avoir une présentation des pères de l'Église qui les prend les uns après les autres, un peu comme Benoît XVI a fait pour les audiences du mercredi. Mais le patrologue véritable est celui qui montre aux étudiants quelle est la méthodologie derrière la lecture critique des pères de l'Église. Et cette méthode qui est derrière, c'est une compréhension de la nature historico-dogmatique du développement du dogme. C'est-à-dire que Newman avait affaire à des positivistes qui disaient « Ah, c'est illogique de dire qu'avant le Concile de Nicée, telle ou telle formule sur le Christ employée par un Tertullien ou sur la Trinité par un Tertullien ou un Hippolyte ou quelque chose comme ça était acceptable et qu'après le Concile de Nicée, ce n'est plus acceptable. Ou bien, dans une analyse positiviste historique, cette formule est valable ou elle ne l'est pas, parce qu'on est fixiste dans le positivisme. » Et Newman disait non, c'est parce qu'il y a une tradition vivante. Et que c'est parce que l'évolution du dogme catholique est portée par un esprit qui fait qu'il y a des enveloppements du sens du dépôt de la foi, qu'on peut dire que ce qui était avant Nice est acceptable, et après davantage de précision, motivé et suscité par l'Esprit Saint donnant la lumière de l'Église, cette formulation maintenant est inadéquate. Et alors, par conséquent, il montre que la patristique doit faire découvrir comment le dogme s'insère dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Comment l'étude de la théologie dogmatique que vous faites en dogme et que vous faites de façon synthétique, vous dites, on va aborder la mariologie, on va aborder la grâce, etc. Mais il faut qu'il y ait un lieu où on comprend que c'est d'ordre historico-dogmatique et pas simplement purement dogmatique. Non pas que ces formules ne sont pas expression de la vérité absolue, mais il y a progression dans la manière d'être expression de la vérité absolue, parce que tout est pauvre par rapport au mystère, et par conséquent, il y a constante évolution dans la manière de formuler la foi, justement à cause du fait que le langage est limité par rapport au mystère de la foi. Et c'est ça que Newman met le doigt sur la différence entre un positivisme historique et un historien qui est catholique, c'est-à-dire qui voit qu'il ne faut lire les documents qu'à la lumière de la tradition vivante de l'Église, voyez, c'est ça. Et de Lubach, c'est ça. De Lubach ne cite Newman que quelques fois, parce que pour une bonne part, l'inspiration de l'exégèse médiévale, les quatre tomes de l'exégèse médiévale, c'est du Newman en français, si vous voulez. C'est du Newman en français. Newman a dit, c'est exactement ça, comme ça qu'il faut faire la patristique de Lubach. C'est exactement comme ça qu'il faut la faire. Et alors, c'est pour ça que Ratzinger, lorsque vous regardez les ouvrages de Ratzinger, vous verrez que vous avez une foule de noms en allemand dont vous ne connaissez même pas la prononciation. Et puis, de temps en temps, vous avez un autre français, et c'est presque toujours de Lubach. C'est presque toujours de Lubach. Et c'est à cause de la valeur historique ou dogmatique de la production de Lubach, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça ici en France. Non, mais je vous dis ces choses parce que comme ça vous voyez, si Newman n'a pas eu une influence là dans des milieux où il devait avoir une influence sur des hommes comme ça, il y a une influence énorme. Et ça a donné aux intellectuels catholiques avant le concile, comme Bouillet et autres, une impulsion qu'ils ont reçue en partie de Newman. Ça, c'est clair. C'est absolument clair. Ensuite, vous avez le Prophetic Office of the Church. Et alors là, effectivement, c'est une proposition de la Via Media Anglicana que Newman a dû reprendre après pour la corriger, parce qu'effectivement, il y avait des prises de position anti-romaines dans cet ouvrage. Bon, non pas qu'il n'y a pas une certaine valeur à donner à la manière dont il parlait au prophétisme, au laïc, etc., mais quand même. Ensuite, vous avez les cours sur la justification. Et là, il y a une approche qui montre que déjà là, Newman est très proche de Rome. C'est-à-dire qu'il a une révulsion pour la doctrine réformée de la justification par la foi. Et là, il rejoint davantage, même complètement, la doctrine de Trente sur la justification intrinsèque. Mais avec une insistance sur la grâce incréée, que le Concile ne peut pas se payer le luxe de l'adopter, puisqu'il s'agit de répondre à Luther qui nie toute intrinsécité de la justification. Par conséquent, le Concile de Trente insiste lourdement sur la grâce créée, c'est-à-dire la grâce sanctifiante qui nous transforme. Alors qu'ici, Newman insiste sur le fait que la grâce incréée est première par rapport à la grâce créée, même si nous n'avons la grâce incréée que par la grâce créée. C'est-à-dire que la grâce incréée, c'est l'inhabitation des trois personnes divines. Voilà. Ensuite, vous avez le tract 90 qui entraîne la disgrâce de Newman parce qu'il essaie d'interpréter le formulaire. On dit la formulaire ou le formulaire ? Le formulaire. Le formulaire anglican de la doctrine. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Newman a fait un plaidoyer pour une interprétation catholique, c'est un exemple qui précède tous les exemples que nous voyons. Moi, je mets ça sur le tableau. Parce que c'est vraiment important, ça. Parce que ça détermine. Stéphane est en retour. Mais catholicisante, parce que mais qui en fait ce plaidoyer ne tient pas la route. Hein. Et lorsqu'il y a une protestation nationale ou de tout l'anglicanisme contre ça, c'est fondé finalement. Le plaidoyer ne tient pas la route. Bon, mais quelle est l'importance de cette interprétation d'un formulaire qui ne tient pas la route comme ça? Eh bien, vous voyez, Newman a finalement été le pionnier de ce que nous appellerions l'herméneutique du dogme, c'est-à-dire que dans l'Église catholique, étant donné que les dogmes étaient proclamés comme étant de foi divine et demandé justement une adhésion de foi à ce qui est formellement révélé, les théologiens catholiques ont mis longtemps à comprendre qu'on pouvait justement les regarder à la lumière de cette historicité. Alors que, étant donné que le formulaire des 39 articles n'est qu'un formulaire très contextuel, dans un contexte de réforme, qui lui donne justement des limites qui ne peuvent pas s'élever au niveau de l'universalité catholique. Et c'est pour ça que la tentative Newman était un échec. Mais Newman ne se sent pas comme iconoclaste ou agissant contre la foi lorsqu'il essaie d'en faire l'herméneutique, c'est-à-dire de les interpréter dans le contexte et à partir de cette interprétation dans le contexte historique, de relativiser ce qui est relativisable par rapport à une formulation plus catholique et meilleure, si vous voulez. Alors que les théologiens catholiques ont mis longtemps pour comprendre que l'historicité des dogmes exige qu'on regarde les dogmes pour le respect même des dogmes, parce que les dogmes sont formulés par rapport à des situations historico-culturellement situées, parce que s'ils ne l'étaient pas, ils ne s'adresseraient pas d'une façon adaptée aux fidèles catholiques qui sont de cette époque. Et par conséquent, on a compris, surtout avec le Concile Vatican II, que l'herméneutique du dogme est une nécessité. Hein. Et par conséquent, Newman est un pionnier dans cette voie. Et lorsqu'on regarde comment il étudie l'homogénéité du dogme, en fait, sous le nom de développement, il est en train de faire tout le temps de l'herméneutique du dogme. Il est en train de toujours dire, ben oui, mais cette formulation sur Marie ne fait que reprendre ce qui a été dit dans le passé, mais de façon meilleure. Autrement dit, le développement du dogme et l'herméneutique du dogme sont très proches l'un de l'autre, si vous voulez. Mais les catholiques, avant le concile, ont parlé surtout du développement du dogme, et alors ce n'est que petit à petit qu'on a compris que l'herméneutique est possible dans le respect de l'absolu de la foi qui est exprimé dans les dogmes. Voilà. Et alors, mais Newman est un peu un pionnier dans cette voie, si vous voulez. Voilà. Eh bien, voilà. Je reprendrai tout ça d'une autre manière après la pause.